salut Blockbuster. Bon, je voulais dire que c'est bien de mettre un répondeur sur France Inter. Tout le temps, contactez-nous par Internet. Mais moi, je suis un ouvrier, je travaille avec la radio toute la journée. J'ai pas Internet sous la main. J'ai pas le temps de répondre, de faire des mails. Voilà. Allez, à plus. Ciao.
Salut Frédéric. Voilà, c'est Marion. Je voulais réagir par rapport à Netflix. Parce que finalement, je suis pas... ni pour ni contre, disons que j'ai certaines appréhensions. On a testé ça le week-end dernier. Et le fait d'avoir les émissions, les séries qui s'enchaînent les unes après les autres, sans avoir le générique qui revient, on peut se faire une espèce d'orgie de séries. Donc c'est assez... je m'interroge par rapport à tout ça et au fait que déjà les séries sont chronophages, mais alors avec Netflix, n'en parlons pas.
Salut motherfucker, c'est Hank Moody. C'était pour savoir si un jour il y aurait un blockbuster sur Californication. Allez, salut.
To be or not to be, not to be.
En général, quand un mec te dit j'aime bien le rap, tu peux commencer à te méfier. Parce qu'il n'est pas du tout dit que vous parliez de la même chose. Quand tu dis à quelqu'un j'aime bien la salade de tomates, il y a une sorte d'accord tacite, une nomenclature dans la langue française qui veut qu'on soit en train de parler d'une tomate coupée préalablement en rondelles ou en dés, accompagnée d'une vinaigrette. Quand tu dis j'aime bien le rap à quelqu'un, toi tu penses peut-être Kerry James, Sniper ou Youssoupha, tandis que ton interlocuteur il pense peut-être Joule, Black M ou Maître Gims. Autant dire que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Le rap, c'est un mot devenu tellement large qu'il englobe des chanteurs qui n'ont rien à voir. Le rap, en fait, c'est un peu la communauté européenne de la musique. On a voulu faire entrer trop de trucs dedans trop vite. Alors, il y a quelques domaines dans lesquels nommer les choses ne suffit pas. Tu rencontres quelqu'un qui te dit que James Bond est son personnage favori. De quel James Bond il parle ? Je suis désolé, je réagirai pas de la même manière si je suis face à quelqu'un qui adore Sean Connery ou Daniel Craig que si je suis face à quelqu'un qui adore Roger Moore. C'est pas pareil. Si un jour mon fils me présente sa future femme ou son futur mari, je m'en fous, mais qui me dit « Tu vas l'aimer, il ou elle adore Star Wars ». Si c'est les trois premiers, je dirais « Pas de problème, passez quand vous voulez à la maison, on fera du rôti ». Si c'est la prélogie, bon bah vous comptez pas sur moi pour Noël. Le rap, c'est pareil, ça veut plus rien dire. Et c'est pour ça qu'on a inventé un nom qui met tout le monde d'accord, et ce nom, c'est Eminem.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady.
Jimi Hendrix a longtemps été considéré comme un rocker noir, Elvis comme un voleur de musique noire et Eminem comme un rappeur blanc. Et toujours cet adjectif à poser en fin de phrase qui aurait tendance à faire oublier que l'on a dans ces trois cas tout simplement affaire à des génies. Eminem, de son vrai nom Marshall Mathers, s'est imposé comme l'un des plus grands rappeurs, si ce n'est le plus grand de sa génération, avec une virtuosité technique sans égale dans le monde du rap. Il est aussi un de ceux qui s'est mis le plus à nu dans ses textes, assumant sa part d'ombre comme rarement un artiste l'a fait jusqu'à maintenant. Et écouter un album d'Eminem, c'est ouvrir une fenêtre sur l'inconscient d'un déçu du rêve américain. Les albums d'Eminem, c'est une thérapie qu'on écoute dans son iPod. Pour parler de ce prodige qu'on aime ou qu'on déteste, j'ai avec moi une équipe de spécialistes. Alors tout d'abord, Jean-Baptiste Toussaint, bonjour.
Ravi d'être ici.
Et oui, de retour, alors photographe et vidéaste. On rappelle que vous avez fondé la chaîne YouTube TFTC, hein, Tales from the Click, qui explore le cinéma. Et vous avez aussi la passion, voilà, vous avez fait un documentaire sur Eminem.
Yes.
Avec notre côté également, Fred Musa.
Bonjour.
Bonjour. Alors évidemment, je ne sais même pas si ça vaut le coup de vous présenter. Peut-être pour les auditeurs de France Inter
peut-être,
quand même.
Peut-être.
Vous êtes animateur de l'émission Planète Rap tous les soirs sur Skyrock. Hein, c'est de 20h à 21h. Et vous êtes animateur sur Skyrock depuis mai 92.
Les fiches sont bonnes.
Les fiches sont bonnes.
Le renseignement est parfait pour l'instant.
Bon. Et enfin avec nous, Yérim Sarr. Bonjour.
Salut, ça va?
Oui, impeccable. Alors, journaliste rap pour Vice, Move et Paris Hip Hop. Et vous êtes même intéressé par la pop culture de manière générale.
Ouais, voilà, on va dire ça comme ça.
Alors, ensemble.
Et je tenais à dire que les studios de France Inter sont beaucoup plus grands et plus beaux que ceux de Move.
Oui, mais alors, bah, c'est normal, hein, tout ça, c'est de l'argent public. Hein, quand vous payez vos impôts, c'est un siège en plus qu'on gagne.
Et moi, je tiens à dire que j'aime beaucoup Roger Moore, peut-être moins Joule, mais on peut aimer les deux.
C'est vrai.
Mais en même temps, j'adore être complètement discriminant. Alors ensemble, on retracera le parcours d'Eminem, ses influences, son style. On fera bien évidemment la genèse de ses succès, ses provocations et les polémiques qui vont avec. Quelle est sa place dans le monde du rap d'aujourd'hui? Et on fera justement un point sur l'état de ce monde du rap actuellement. Alors je rappelle que vous pouvez nous laisser des messages au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20. Vous êtes dans Blockbuster sur France Inter et ce matin, on vous parle d'Eminem.
Il y avait sans doute une rage, une rébellion adolescente en moi. C'était un vrai challenge. Vous savez, je suis blanc et c'est une musique majoritairement noire. Tout le monde me disait, allez, laisse tomber, ce n'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas parce que tu es de cette couleur de peau.
Alors, Jean-Baptiste Toussaint, qui est Eminem ?
Alors Eminem, de son vrai nom Marshall Mathers, est né à Saint-Joseph dans le Missouri et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a eu un début de vie très compliqué puisque son père l'abandonne à la naissance et sa mère déménage de caravane en caravane avant de l'inscrire dans l'une des écoles les plus violentes de Détroit, école très violente puisqu'il se fait massacrer à la récré tous les jours, ça devient le souffre-douleur de ses camarades et en 1981, il y a un premier événement assez grave dans sa vie puisque il se retrouve dans les toilettes de l'école. Et un enfant avec une boule de neige à l'intérieur de laquelle il a inséré un objet métallique lui balance la boule à la figure. Marshall Mathers tombe sur le rebord des toilettes, la tête la première, et tombe dans une sorte de semi-coma. Il reste comme ça pendant une heure dans les toilettes avant que le SAMU arrive. Et pendant une semaine, il restera à l'hôpital et il devra retrouver ses fonctions motrices de manière très compliquée. Donc le début de vie est assez compliqué pour Eminem. En 1995, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire de sa vie. Il est cuisinier dans un resto qui s'appelle le Gilbert Lodge, qui est une sorte d'hippopotamus là-bas aux États-Unis. Et il se fait virer quelques jours avant Noël et c'est là qu'il décide de faire du rap. Et après, il s'inscrit au rap olympique en 97 et c'est là que Dr. Dre le remarque à l'aide d'une VHS qu'on lui a transmise. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le jour où Dr. Dre voit cette VHS d'Eminem en train de rapper, il est très impressionné et un type à côté de lui dit « Mais tu vas quand même pas embaucher un blanc ?» Et Dr. Dre lui dit « Écoute, je m'en contrefiche qu'il soit blanc, rouge ou violet, trouve-moi ce type maintenant. » Enfin, je pense pas qu'il ait dit contre-fiche, c'est pas vraiment le style.
Oui, c'est pas le style. Ouais,
mais comme on est sur France Inter, et voilà comment ça a commencé pour Eminem. Je vous ai fait vraiment ça de manière assez globale.
Et il a vécu aussi dans des quartiers majoritairement noirs.
Oui, de caravane miteuse en caravane miteuse. Et pour lui, le départ était assez compliqué. Et je pense qu'il tient sa force de là également.
Et alors, il a fait un film, 8 Mile, qui retrace un petit peu ses premières années. Comment, en fait, quand on a rien, et quand on est rien, finalement, comment on se lance dans le monde du rap à l'américaine? Qui peut nous expliquer ça?
Bah, lui, en tout cas, sur le parcours d'Eminem, ça va être surtout dans ce qu'on appelle les battles à l'époque, où il va s'affronter à d'autres rappeurs, où il va commencer à écrire un petit peu. Mais c'est assez bien tracé, d'ailleurs, si vous avez vu ce film qui s'appelle 8 Mile, où on le voit, il gratte dès qu'il peut gratter, il gratte dès qu'il peut aller faire un freestyle. Et il est à cette période quand, d'ailleurs, il va être repéré par Dre, dans déjà une sale période où il se dit qu'il veut tout laisser tomber. Il vit avec une nana, il a un enfant, la vie est dure, et puis en plus, c'est Détroit, il faut quand même rappeler. Alors, cette ville la 8 Mile Road à Détroit, elle coupe la ville en deux, avec le nord et le sud, avec d'un côté les blancs et de l'autre côté les noirs. Et c'est en pleine période aussi avec la fin des entreprises comme Ford, etc. Il y a un taux de chômage qui est absolument hallucinant. Et donc, quand il va être repéré par Dre, c'est assez inespéré ce qu'il va vivre.
Et d'ailleurs, dans les battles auxquels il participe, tout le monde le sous-estime dès qu'il arrive.
Oui, il est assez sous-estimé, justement. Et cette VHS, là où il va être repéré, il y a deux personnes qui sont importantes pour moi, pour lui, c'est Jimmy Iovine. Jimmy Iovine, c'est le patron d'Interscope à l'époque, avec qui bosse Dr. Dre, justement. Et Interscope traverse une dure période. Il y a eu toute la période aux États-Unis, ce qu'on a appelé East Coast, West Coast, le rap qui venait de New York plutôt et l'autre partie de Los Angeles, avec notamment Dr. Dre, son groupe N.W.A., etc. Et Dre a été repéré à ce moment-là par...
N.W.A. qui signifie ?
Niggas with Attitude. Il y a eu un film d'ailleurs excellent que je vous conseille aussi à tous les auditeurs de France Inter d'aller le voir dès qu'ils ont un petit moment. Mais voilà, à ce moment-là, même Dre traverse aussi une dure période parce qu'il y a eu tout le succès qu'il a pu avoir avec un autre label aussi qui s'appelle Def Row. Une histoire encore, une autre histoire, peut-être qu'on pourra revenir pour en parler, mais une autre histoire compliquée. Donc à ce moment-là, tous sont d'une période un peu compliquée parce que Interscope ne décolle pas, la partie de Dre, tout ce qu'il a plus ou moins signé ne fonctionne pas. Et il va vraiment tomber sur ce gars-là, sur cette cassette, et il va tout mettre dedans. Mmh. Vraiment, il va s'investir Dre à fond. Il va aller en studio avec lui. Il va être là en permanence avec lui.
Oui, pour Dre, c'était un comeback en fait, parce qu'il avait déjà produit des titres assez forts avec Tupac.
Bah, il sort d'un énorme succès. Il a produit en effet Tupac, Snoop Dogg, etc. Ouais. Toute cette époque de la West Coast avec son groupe aussi dont je vous parlais à l'instant. Et là, il est plus en effet derrière. Et il y a une grosse demande évidemment de la part d'Interscope de signer rapidement des morceaux qui cartonnent. Et Jimmy Iovine, qui est donc la deuxième personne avec qui il va se fonder ensuite les fameux casques Beats by Dre, qui vont être vendus 3 milliards de dollars à Apple. Avec lui, Jimmy Iovine va toujours le soutenir, va toujours être derrière lui, en disant « c'est pas grave, on continue ensemble, tiens ». Écoute, ça c'est un de mes assistants qui a repéré ce rappeur qui vient de Détroit. Écoute, dis-moi ce que t'en penses. Et là, Dre devient fou.
Eh bien, tout de suite, on va écouter Without Me d'Eminem, évidemment.
Selfishly, and use it to get myself wealthy. Hey! There's a concept that works. 20 million.
C'était Without Me d'Eminem, une chanson qui a fait beaucoup parler d'elle quand elle est sortie, parce qu'à l'intérieur, Eminem désingue littéralement l'industrie musicale et se moque d'un certain nombre de personnalités du milieu comme Moby et Elvis Presley.
I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it, what's been up, man, how's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan.
C'était Stan dans Blockbuster sur France Inter. Alors, Yerim Sarr, vous, ça fait un moment que vous évoluez dans le milieu du hip-hop. À quel moment vous avez découvert Eminem ?
Si je dis pas de conneries, ça doit être en 99. Honnêtement, c'était par les clips. Donc, parce que 99, ça correspond à son faux premier album, parce qu'il y en a un dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Infinite. Pardon. Qui avait fait un flop. Il était pas avec Dre à cette époque-là, donc honnêtement, je crois d'ailleurs que je l'ai toujours pas écouté.
Et lui non plus.
Ouais, peu personne en fait. Et donc c'est avec le premier album en combinaison avec Dre Aftermath. Pardon.
C'est pas grave.
Qui s'appelle The Slim Shady LP. Et donc là, il y avait un premier single qui était juste Hi My Name Is, et il avait déjà sa formule de clip ultra provoque, avec des passages que tu retiens. Donc t'avais dans mon souvenir, je crois que ouais, il sautait dans une télé, il parodiait déjà des grandes émissions américaines populaires en faisant absolument tout et n'importe quoi. Il était en prof dans une classe, etc. Et donc ouais, il se démarquait vraiment par son imagerie, on va dire. Et après au final, il a enchaîné assez rapidement avec pour moi l'album qui a vraiment enfin, qu'il a installé définitivement, qui était Marshall Mathers LP. Mmh. Et là, ouais, après, c'est d'ailleurs Stan qu'on vient d'écouter. C'était un de ses plus gros succès à l'époque, tiré de ce disque-là. Et ouais, ce qui m'avait scotché, c'était plus le côté très drôle, en fait, qu'il pouvait
oui,
avoir.
Oui, le showman.
Voilà. Et en même temps, derrière, t'avais toujours des trucs très introspectifs où il se faisait pas de cadeaux à lui-même. C'est-à-dire que t'as une discipline, on va dire, dans le rap, et particulièrement le rap US, qui est l'ego trip, où c'est en fait se gonfler un petit peu, se mettre en avant. Et lui, en fait, l'équivalent de ça, c'était des moments où en fait il se dévoilait plus ou moins. Il y avait toutes les phases sur sa mère, où en gros il disait que c'était une droguée, que du coup lui il avait eu une enfance de merde, etc., etc.
Il va très très loin, hein. Il va dans les tréfonds de son âme quand
ouais,
il parle
vraiment.
De ça.
C'est d'ailleurs ça, c'est un truc qu'il a continué au moins jusqu'à son quatrième album. En sachant que si c'est sa mère en particulier, ça veut pas dire qu'il aime son père ou quoi, c'est juste que son père l'ayant abandonné, il a dit beaucoup plus tard qu'en fait il voulait même pas lui faire de pub entre guillemets et parler de lui en fait. Mais en fait il le déteste encore plus, donc c'est vraiment une famille marquée par la
oui,
vie.
Oui,
d'ailleurs
un père qui a voulu revenir un peu plus tard quand il s'est rendu compte qu'il gagnait des millions de dollars.
Donc ouais, pas le meilleur portrait de famille du monde, on va dire.
Oui. D'ailleurs, pour revenir sur son album,
Jean-Baptiste, c'est ça ?
Ouais. Pour revenir sur son album Infinite, pour lui, ça a été un gros coup marquant dans sa vie parce qu'il misait beaucoup sur cet album. Et vu le flop que ça a fait, il est tombé dans une sorte de dépression après. Il est tombé dans l'alcool énormément et il a surtout fait une tentative de suicide au Tylenol aux États-Unis. Le Tylenol, c'est l'équivalent du Doliprane, je crois ici. Et ça n'a pas fonctionné. Et après, ça a eu valeur de déclic pour lui. Et c'est là qu'il a enchaîné sur le rap olympique après. Et puis voilà.
Alors Eminem est une référence dans le monde du rap, mais est-ce que c'est le cas ailleurs ? Parce que Chloé Brassière, notre geek qui pleure toutes les larmes de son corps depuis la fin de la Japan Expo, est allée demander à son entourage ce qu'Eminem leur évoquait.
J'étais pas dans le rap avant, c'était plus rock, hard rock, metal. J'ai écouté Eminem parce que mon frangin, lui, il est plus rap. Et c'est vraiment, pour moi, le dieu du rap, quoi. C'est vraiment, s'il faut commencer dans le rap, c'est par lui.
Je connais, mais j'écoute pas plus que ça.
Même si c'est pas mon genre de musique, il a du talent, mais c'est quand même quelqu'un qu'il faut écouter au moins une fois, je pense, en concert, ça peut être sympa.
C'est sûrement le meilleur rappeur américain, mais après, voilà, j'en sais pas plus.
Moi, je connais quelques titres, mais c'est vrai que le rap, c'est pas trop mon truc non plus, donc j'ai rien de très spécial à dire sur lui, mais après, oui, je pense que c'est une icône, en fait. Il est devenu une icône. Je pense que le titre de sa chanson, Rap God, ça démontre pas mal un petit peu ce qu'il était, quoi. Et ce qu'il est, il est pas mort quand même, on va pas l'enterrer.
J'avais une époque où j'étais très rap et j'écoutais Eminem, ouais.
J'écoute pas de rap du tout, j'écoute beaucoup plus de métal.
Qu'est-ce que j'aime chez Eminem? Je sais pas, en fait, il a un truc à lui. Enfin, il a une façon de faire à lui, une façon de rapper à lui, quoi. Il est aussi vachement marrant dans ses trucs, enfin, parfois il fait des trucs marrants, quoi. Puis il sait aussi être dramatique.
Quelqu'un de mégalo.
Je sais pas, mais moi, c'est l'image que ça m'inspire.
Je rappelle que vous pouvez tout le mois de juillet, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20, au 01 56 40 30 20, sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire Eminem. Alors, Fred Musa, oui, on moi. A parlé, voilà, c'est vous, on a parlé de sa collaboration avec Dr. Dre, et assez rapidement, il y a une forme d'osmose qui se fait très très fort entre eux.
Ah, c'est même dès le début. Non, c'est vrai que c'est assez incroyable, cette osmose, parce que en studio, les deux se comprennent sans forcément se parler, d'ailleurs. C'est ça qui est assez fou. Dre met des sons, travaille sur ses sons avec lui. Et puis lui, il écrit, il est là, en train de gratter. Et il va en effet y avoir ce qu'on peut considérer comme, en tout cas, son premier album, hormis le précédent qui a fait un flop. Et qui, pratiquement tous les morceaux sont des titres, des tubes, quoi. C'est assez fou l'osmose dès le début avec ce producteur, avec Dre, quoi.
Et j'ai lu qu'il avait même écrit 6 titres en une journée en studio avec Dre.
C'est possible parce qu'ils passent leur temps en studio, en fait. Dès qu'ils vont rentrer en studio, à partir du moment où ils décident de rentrer en studio, à partir du moment où Dre dit il faut me retrouver ce mec, il faut aller me le chercher tout de suite, j'ai des sons pour lui, ils vont passer des journées entières en studio, sans jamais lâcher, sans jamais compter les heures ou quoi que ce soit.
Et c'est un succès immédiat ou il a fallu attendre un petit peu que ça prenne sur les radios ou tout de suite les radios
sur cet album? C'est un succès immédiat, ouais. C'est un succès immédiat parce qu'en effet, ce que disait Yérim, il y a aussi l'imagerie qui va avec, il y a les clips qui vont avec. On est pas encore à la grande hystérie de tout ce qui peut être YouTube ou les vidéos sur le net, mais c'est le début aussi, donc on commence aussi à consommer beaucoup plus de clips aussi via les réseaux internet. Donc toute cette provocation qui balance aussi en images est vécue comme un espèce de souffle aussi aux États-Unis et en Europe, d'ailleurs, dans le monde entier.
En termes de promo, c'est une machine de guerre pour l'époque. Hein, c'est vraiment, les clips tournent dans toutes les chaînes musicales. D'ailleurs, je crois que c'était un des premiers à être sous-titré en français quand il passait sur les chaînes musicales françaises, parce qu'il y avait cette attente autour de c'est quoi, en gros, la dernière connerie
qu'il va dire, la dernière punchline,
etc. Tu vois.
Jean-Baptiste Toussaint?
Oui, tout à l'heure, Frédéric, tu parlais de sa vitesse d'exécution dans l'écriture. Et moi, c'est ce qui m'impressionne le plus chez Eminem. Il faut savoir que son fameux titre « Lose Yourself » dans le film « 8 Mile », il l'a écrit en un quart d'heure sur le set du film. Donc, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est ça. Et son fameux titre « Rap God » qui est apparu par la suite, qui est assez singulier parce qu'il arrive à placer 101 mots en 16 secondes. Dans
c'est phénoménal. Couplet. On l'entendra tout à l'heure.
Et le plus fou dans cette chanson, c'est que apparemment, est-ce que c'est une légende? On ne sait pas, mais lui, il dit qu'il l'a pas écrit, en fait, la chanson. C'est un freestyle qu'il a fait en une prise. Et je trouve ça assez impressionnant de me dire que cette chanson où il place tellement de mots serait un freestyle. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Mais si c'est le cas, c'est terriblement impressionnant.
Mais parce qu'en termes de technique, Eminem, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement singulier. C'est-à-dire qu'il a une voix très aiguë. Il a une forme de flow qui est sans pareil. Hein.
Qui change,
oui, comme qui change tout le temps. C'est-à-dire que là, on écoutait Stan tout à l'heure. Et il a même pas la même voix que dans les titres où il incarne Slim Shady.
Oui, comme disait Fred tout à l'heure, faut pas oublier que lui, il vient du freestyle et des battles. Et c'est comme ça qu'il a été forgé, en fait, Eminem.
Et alors, le milieu du rap est quand même majoritairement noir. Il y a des histoires de clans. Comment a été vécue cette arrivée avec ce jeune rappeur blanc qui arrive comme ça, qui cartonne, qui a un talent fou, mais dans un milieu qui justement était un petit peu le précaré des Afro-Américains?
Moi, j'ai le sentiment que ça n'a pas vraiment posé de problème à l'époque parce que son talent éclaboussait tout, en fait. Et quand on avait vu le fameux tour qu'il avait fait avec Snoop, avec Dre par la suite. En fait, ça passait comme dans du beurre parce que il était juste là pour son talent. Et moi, enfin, de ce que j'avais vu à l'époque, j'avais pas le sentiment qu'on se disait, lui, il est blanc, il est avec des noirs. En fait, c'était des types qui avaient un talent sensiblement équivalent et qui se retrouvaient sur scène. Après, j'imagine qu'à l'époque, ça devait être assez singulier de voir un rappeur blanc s'imposer de manière aussi magistrale.
Parce que lui-même a dit que si jamais il avait été noir, il aurait vendu sûrement 2 millions d'albums de moins. Il l'a dit en interview.
Bah, parce que lui, en fait, c'est ça qui était marrant, c'est que c'est pas comme s'il était arrivé en faisant aucune allusion au fait qu'il était blanc dans un milieu noir. Lui, il l'a assumé tout de suite et il l'a transformé ça en une force en faisant franchement beaucoup, beaucoup de phrases, justement. Où il s'auto-qualifiait de white trash, c'est un petit peu, bon, même si c'est très romancé dans 8 Mile, mais c'est ce qu'on voit sur le battle final. C'est-à-dire quand il commence à lui-même s'enfoncer et s'auto-charrier, en fait, en disant que ouais, c'est un white trash, c'est un plouc qui vit dans une caravane, etc., etc., etc. Et en fait, il a toujours assumé ce côté-là, donc en fait, quelqu'un qui l'attaquerait en disant ouais, t'es blanc, t'as rien à faire là, il a déjà, en fait, il leur a déjà coupé l'herbe sous le pied. Donc après, t'as aussi un truc, c'est que même si on a peut-être l'impression avec le regard extérieur, parce que c'est vrai que la société américaine est très communautaire et tout, mais le rap en tant que musique, c'est quand même un truc qui est presque, c'est pas que ça, mais c'est quand même un truc un peu méritocratie, quoi. C'est-à-dire que quand quelqu'un est vraiment très fort, ça devient quand même assez compliqué et c'est vu de manière même injuste si. Si on lui disait, ouais, mais t'es fort, t'es peut-être même beaucoup plus fort que plein d'autres gens, mais vu que t'es blanc, on va te mettre en dessous, c'est pas possible normalement. Et après, il est quand même backé par Dre et son propre groupe de l'époque D12. Donc c'est niveau, on va dire, niveau confiance et niveau légitimité, il était bétonné en fait.
C'est quelque chose qu'on peut voir d'ailleurs sur une tournée qui était une des tournées les plus rentables aux États-Unis en 2000-2001, qui s'appelait le Up in Smoke Tour, qui était une tournée donc devant Madonna, devant Rolling Stone en termes de rentabilité, où il y a évidemment Eminem, il y a Dr. Dre, il y a Snoop Dogg, etc. Et il y a un documentaire qui est assez incroyable d'ailleurs sur le Up in Smoke Tour, où on les voit tous ensemble, et on n'a pas trop l'impression qu'il y ait une différence entre le fait que ce soit le petit rappeur blanc ou avec les autres, quoi.
Vous écoutez France Inter, il est 11h31 et c'est l'heure des chiffres. Je vous donne des chiffres et vous me dites à quoi ça correspond. Si je vous dis le chiffre 19, c'est le nombre total de Grammy Awards que le rappeur a remporté, l'âge auquel il adopte le pseudo Eminem ou le nombre d'années de carrière d'Eminem.
L'âge où il adopte le nom, non ?
19.
19, la carrière, non.
Fred Musa.
19, si, la carrière.
Eh bien oui, ouais, bonne réponse de Fred Musa, c'est le nombre d'années de carrière d'Eminem.
Grammy, je pense qu'il y a beaucoup plus, non.
Et il a remporté 15.
À 15
seulement 15 Grammy.
Bon, oui, oui. En même temps.
Ouais, c'est vrai.
15 Grammy.
Et en fait, il a adopté le pseudo Eminem, enfin, au début, il se faisait appeler MNM, à 14 ans. Donc, si je vous donne le chiffre 172, c'est en millions le nombre total d'albums d'Eminem vendus dans le monde, en dizaines de milliers le nombre de copies de Marshall Mathers LP vendus la première semaine de sortie aux États-Unis, ou en centaines de milliers ce qu'a dû verser Eminem à sa mère en dommages et intérêts après avoir écrit certaines chansons à son sujet.
Nombre de millions d'albums vendus.
Ouais, évidemment, ouais. Évidemment, c'est 172 millions d'albums vendus dans le monde.
Et on gagne un truc à la fin ou pas ?
Oui, vous allez voir, on gagne un truc, on gagne un truc. Oui, non, mais on sait être généreux, vous allez voir. Si je vous dis le chiffre 8, c'est en millions ce que rapporte Eminem à ses producteurs par an, le nombre d'albums studio enregistrés par Eminem, ou l'âge auquel Marshall Mathers est contraint de quitter la ville de Saint-Joseph dans le Missouri à la suite des violences qu'il subit de la part de ses camarades de classe. 8.
C'est
Je suis extrêmement nul à ce jeu, donc je laisse.
Non, mais c'est à l'âge à laquelle il part du Missouri.
Oui, c'est effectivement ça. Mais c'était aussi le nombre en millions que rapporte Eminem à ses producteurs par an.
Ah, par an ?
Oui, par an. Si je vous dis le chiffre 45, c'est le nombre de célébrités qu'Eminem a clashé dans ses chansons, ou l'âge de Marshall Bruce Mathers.
Son âge ?
C'est son âge. Il y a beaucoup plus de célébrités qui se sont fait clasher que 45. Il y en a plus de 64, on a compté.
Et puis ça continue. Enfin.
Oui, ça continue. Ah, je crois que ça va pas s'arrêter.
Je crois qu'il y a eu Trump, un des derniers, qui a pris sévère.
Oui. Alors, on va faire un petit interlude musical avec la récompense du jour. C'est des rappeurs belges, Caballero et Jean Jass, avec le morceau Dégueulasse.
J'en profite pour vous dire que cette émission a été réalisée par Céline Hila, Marie Mougin et Chloé Brassière à la préparation de l'émission, aidée de Prudence Castelot. La programmation musicale est signée Thierry Dupin et à la technique aujourd'hui les merveilleux Alexandre Chenet et Loïc Frapsos.
Est-ce que tout le monde a vu ce que j'ai vu aux infos? Ouais, ouais c'est dégueulasse. C'est qui le connard qui a pissé sur la planche? Ouais, ouais c'est dégueulasse. Si c'est toi, j'espère que tu t'es lavé les mains. Sinon, c'est dégueulasse. Attends, mais quand j'y pense, tu m'as serré la pince. Et ça c'est dégueulasse. Larguer une bombe sur un village, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Larguer sa meuf par SMS, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Tu voulais manger ça et tu finis au McDo. Ouais, c'est dégueulasse. Je reste à la maison dehors, fais dégueulasse. Ouais, fais dégueulasse.
Fais dégueulasse.
Alors que la vie, c'est vraiment beau. Alors que la vie, c'est vraiment beau. C'est con à dire, mais c'est vraiment beau. C'est con à dire, mais c'est vraiment beau. Pas besoin de rouler en lambeau. Même si ça aussi, c'est vraiment beau. Alors que la vie, c'est vraiment beau. C'est con à dire, mais c'est vraiment beau. Arrêtez de chialer.
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 Arrêtez de chialer. Parce que la vie est belle et c'est vraiment beau.
Arrêtez de chialer.
Blanc contre noir, juif contre muslim. Bientôt vegan contre carnivore. Je vois des caméras partout.
Wesh, c'est la vie ou c'est Black Mirror.
On m'a dit que c'était nous les gentils. On m'a dit que c'était eux les méchants. Me prends plus jamais pour un con. T'es ministre et tu paies pas tes impôts. Ça c'est dégueulasse.
Pour rester poli, je fais caca sur toi. Même si c'est dégueulasse. J'ai demandé à Paul le numéro de Riri.
Elle est pas dégueulasse.
Elle est pas dégueulasse.
Quand j'imagine le monde de demain, il est dégueulasse. Dégueulasse. Alors que la vie, c'est vraiment beau. Alors que la vie, c'est vraiment beau. C'est con à dire, mais c'est vraiment beau. C'est con à dire, mais c'est vraiment beau. Pas besoin de rouler en lambeau. Même si ça aussi, c'est vraiment beau. Alors que la vie, c'est vraiment beau. C'est con à dire, mais c'est vraiment beau. Arrêtez de chialer.
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 Arrêtez de chialer. Parce que la vie est belle et c'est vraiment beau.
Arrêtez de chialer.
Arrêtez de chialer.
Arrêtez de chialer.
Vous êtes toujours sur France Inter et c'était dégueulasse du duo Caballero et Jean Jass.
And I just bought a new ray gun from the future just to come and shoot ya. Like when Diabetes made Ray J mad. His dad said he looked like a faggot. And Mayweather's pads hanging to a man while he played piano. Man oh man, that was a 24/7 special on the cable channel. So Ray J went straight to the radio station the very next day. Hey Fab, I'ma kill you. Lyrics coming at you with supersonic speed.
JJ Fab.
Summon, I'ma do my lama. You assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber. So that anything you say is ricocheting off of me and it'll glue to you. And devastating more than ever, demonstrating how to give a motherfucking audience a feeling like it's levitating, never fading. And I know the haters are forever waiting for the day that they can say I fell off the. Be celebrating cause I know the way to get him motivated. I make elevating music. You make elevator music. Oh, he's too mainstream. Well, that's what they do when they get jealous. They confuse it. It's not hip-hop, it's pop. Cause I found a hella way to fuse it. With rock, shock rap, with dark. Don't unlose yourself, I'll make them lose it. But fuck it. Life's handing you lemons. Make lemonade then. But if I can't battle the women, how the fuck am I supposed to bake them a cake then? The mistake is a it's a fatal mistake if you think I need to be overseas and take a vacation to trip abroad and make a fall on a face. And don't be a retard. Be a king? Think not. Why be a king when you can be a god?
C'était un extrait de Rap God, chanson dans lequel Eminem nous prouve que c'est un peu le Usain Bolt du rap. Enfin, c'est quand même phénoménal parce que non seulement
machine de guerre.
Il a un débit, mais on a l'impression qu'il fait ça facilement.
Ouais. On va pas tenter, je sais pas, quelqu'un veut faire un peu mieux, mais c'est vrai que c'est hallucinant la façon dont il maîtrise surtout cet art, quoi.
Il a avalé un dictionnaire et il ressort ça comme ça.
C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était une réponse au titre de Kenny qui s'appelait I Am God, je crois, et beaucoup disaient que c'était une réponse à ce titre-là, Rap God. Donc voilà.
C'est une réponse disproportionnée. Hein, je pense que là, tout le monde est séché. Alors, comme souvent dans le rap, la carrière d'Eminem a été émaillée. J'aime bien ce terme, émaillée.
C'est très classe.
C'est classe. Hein, a été émaillée par de nombreuses
très
polémiques.
France Inter.
Oui, c'est pour ça que j'ai toujours un mot France Inter. Ouais, celui-ci, je l'avais stabiloté. J'ai dit, oui, émaillée, ça va plaire aux auditeurs, ça. Ouais. A été émaillée par de nombreuses polémiques. Car, on va pas se mentir, Eminem, y a des gens, ils aiment pas. J'aime pas.
Il pose des problèmes, Eminem, à pas mal de personnes, parce que d'accord, ses chansons ont l'air sympas, mais quand on écoute bien ce qu'il dit et qu'on traduit ses paroles, c'est pas toujours joli joli. Le problème, c'est que dans ses chansons, il dit qu'il aime se droguer, qu'il rêve de tuer sa femme, que les Noirs sont tous pourris.
Des textes d'une violence inouïe, où le rappeur s'en prend à tout le monde, sa mère qui lui intente un procès pour diffamation, les chanteurs à la mode de Britney Spears à Ricky Martin et surtout les homosexuels, sa cible favorite.
À cause de ses paroles insupportables, Eminem a beaucoup d'ennemis. Mercredi dernier, une centaine de personnes a même manifesté lors de la cérémonie des Grammy Awards pour qu'aucune récompense ne soit décernée à Eminem.
Alors ils ont manifesté, mais ça ne l'a pas empêché d'en gagner des Grammy Awards, il faut relativiser leur influence. Mais derrière Eminem, il y a quand même une polémique qui revient assez souvent dans le rap. C'est-à-dire que ces personnages qu'on crée pour des chansons, on a tendance à les confondre avec l'interprète. Et alors, qu'en est-il d'Eminem? Est-ce qu'il est véritablement raciste, homophobe?
Oui, certainement et tout.
Sinon, il serait pas aussi drôle. Hein.
On s'ennuierait, quoi. Mais non, mais après, je pense qu'il faut aussi distinguer. Il y en a qui le font avec, j'ai envie de dire, avec talent. C'est le cas d'Eminem et d'autres artistes aussi, parce qu'en France aussi, on connaît ça. Hein.
Avec Orelsan, notamment.
Avec Orelsan, notamment, et d'autres. Et puis, il y en a qui le font sans talent, où c'est juste de la violence ou des insultes sans aucune idée derrière. Eminem, en fait, ce qu'il balance aussi, c'est le terme, parce que là, on va changer d'émailler, mais c'est à la gueule de cette Amérique puritaine aussi.
Oui.
Il joue aussi beaucoup avec cette Amérique puritaine, donc il leur balance tout ce que ils peuvent pas aimer. Donc forcément, ça fait réagir et forcément, on va prendre le bout de parole où on peut lui faire dire ce qu'on veut après. Hein. Quand on sort un bout de parole d'un texte, d'une chanson, après on peut dire regardez, je vous prouve tout de suite qu'il est évidemment homophobe ou ce que vous voulez, etc.
Parce qu'il y a certains rappeurs qui sont à l'image de leur texte. Y a des gens qu'on, on sait qu'ils sont morts de manière violente dans des règlements de compte entre gangs. Y a cette tradition, alors qu'Eminem, il y a vraiment une forme de catharsis entre ce qu'il écrit et ce qu'il a l'air d'être dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand il fait une chanson sur lui qui dit qu'il a envie de tuer sa femme et qu'elle est dans le coffre de sa voiture et qu'il va se suicider avec sa fille, c'est pas du tout le cas. C'est jamais quelqu'un qui a été surpris par la police pour des violences physiques ou ce genre de choses.
Non, lui, il a un côté très fantasme et défouloir quand il rappe ce genre de truc. Et ça va à peu près sur tout et tout le monde. Donc effectivement, le truc qui est remonté par rapport au noir, en fait, c'est une chanson. Parce que je crois qu'il venait de se faire larguer par une meuf qui se trouvait être noire. Et donc, en fait, vu qu'il était très con et très primaire, il avait fait une chanson entière pour dire genre les filles noires c'est de la merde, etc.
Qui était
un freestyle complètement oublié et tout.
Complètement oublié, qui était ressorti par un rédacteur en chef d'un magazine.
Voilà, de The Source, qui avait un contentieux personnel avec Eminem. Mais en gros, non, tout ça pour dire que quand il voit, enfin lui et son équipe, que ça peut aller trop loin sur certains côtés, notamment l'homophobie, en fait, ils ont tout de suite réagi, par exemple, en lui faisant faire une version live de Stan avec Elton John au piano au Grammy Award, je crois, de son époque. Pareil, quand ils font le film 8 Mile.
Et d'ailleurs, à la fin, il avait dit, mais je savais même pas qu'Elton John était gay.
Oui, c'est ça. Et après, t'as eu un peu la même chose, la même stratégie, on va dire, dans le film 8 Mile, où ils sont arrivés quand même à lui faire faire cette scène surréaliste où, en gros, tout le monde rappe, c'est à la pause clope de son usine, et il y a un contremaître qui clash de façon homophobe un autre ouvrier, et Eminem se retrouve à défendre l'ouvrier homosexuel contre l'autre en disant, il avait ce fameux enchaînement où il disait, lui il est gay, mais c'est toi la pédale, tu vois, ce genre de truc. Donc en fait, tu sais, ça reste très cartoonesque au final, et je crois pas que lui, ce soit quelqu'un dans sa vie de tous les jours qui a ce vrai problème avec les homosexuels en général ou quoi que ce soit, quoi.
Jean-Baptiste Toussaint ?
Ouais, ça reste très cartoonesque, et dans cette histoire avec Elton John, quand il avait chanté avec lui au Grammy, il s'était moqué de son homosexualité, et finalement après ils avaient chanté en duo, et ce qui est drôle, c'est que après le duo, il lui avait offert une bague en forme de pénis avec un diamant dessus. Donc il y a toujours ce truc où il veut toujours aller encore plus loin à chaque fois, même quand il se fait pardonner. Donc il y a toujours un truc un peu, oui, cartoonesque, un peu drôle avec Eminem.
He sees everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking, how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choke. He's so mad, but he won't give up. No, he won't have it, he knows. His whole back's at these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do better. Lose his health in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music. The moment you own it, your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better.
C'était Lose Yourself d'Eminem, mon morceau préféré.
Non, mais c'est un crime là de le couper comme ça, ce morceau. Mmh.
Mais oui.
C'est bon, en même temps il est long.
Mais c'est la temporalité, c'est la temporalité. Et puis on a encore des choses à dire parce que on a parlé des albums cultes d'Eminem, mais est-ce que les albums qui ont suivi sont toujours aussi forts et aussi viscérales? Alors là, je pose vraiment la question aux experts du monde hip-hop.
Bah pour moi non. En fait pour moi c'est limite. Pour moi en fait il aurait dû, je sais pas. Crever d'une overdose ou se faire tirer dessus après l'album Eminem Show, et là ce serait devenu vraiment le Tupac blanc, c'est-à-dire que ce serait une légende avec
ne me conseillez jamais un plan de carrière, Eric. Ne me conseillez jamais un plan de carrière. Là tu fais un hit et tu meurs juste après.
C'est... Ouais. Non, il aurait eu presque une discographie parfaite. Après le truc c'est que concrètement il a eu des gros soucis personnels avec une dépression qui a quand même duré 5-6 bonnes années, et c'est vrai que quand il est revenu. Pourtant, il est revenu avec Relapse, qui était un truc de bonne facture, mais en fait, qui avait toujours le comparatif.
Bien sûr. Même trois... Recovery, qui avait un autre album. Ouais.
Et t'avais toujours ce truc où, et même lui, il l'a dit récemment, en fait, dans une interview, il a dit quand il se réécoutait, la période, justement, Slim Shady, Marshall Mathers LP et Eminem Show, il disait, je trouve que je me suis amélioré techniquement, et c'est vrai, il est devenu encore plus maniaque dans sa façon de faire rimer. Quand on dit la technique dans le rap, c'est vraiment ça. Il peut rapper encore plus vite, etc., etc. Mais, et là, c'est ses mots, il dit, mais c'est vrai que la rage n'y est plus, et la passion est un peu moins là, sauf pour insulter Trump, toujours d'après ses mots. Et bon. Donc, voilà.
Moralité, si Blockbuster cartonne cet été, arrange-toi pour te faire buter.
Voilà. Mais c'est prévu. J'ai pris la légende de France Inter. Voilà. Juste, mais il faut vraiment qu'on arrive à un pic d'audience. Et là, tout d'un coup, paf, j'arrête. J'arrête. Mais
non, mais c'est clair quand, ouais. En tout cas, c'est vrai que quand t'écoutes, t'as trois gros et beaux albums, si tu veux. Après, bon, tu peux trouver un petit morceau comme ça par-ci par-là, mais. Est-ce qu'on se souvient des derniers albums, je sais pas, des Rolling Stones? Est-ce qu'on, tu vois, ils tiennent leur carrière aussi sur quelques albums, mais est-ce qu'on se souvient des tout derniers qu'ils ont pu faire? Ça l'empêche pas de tourner, puisque là, il est en tournée, d'ailleurs, actuellement, en tournée européenne. Et c'est toujours, alors, pour le coup, un concert d'Eminem, c'est quelque chose d'intense, vraiment.
Oui, c'est un chômage. Ah,
moi, ça, il a rien perdu.
Ça, il a rien perdu, quoi. Sur scène, c'est, moi, la dernière fois que j'ai dû le voir, c'est au Stade de France, il y a 2-3 ans, quand il est passé. Et en plus, il y avait pas trop d'artifice, parce que moi, j'ai pu voir aussi des tournées d'Eminem où, il y avait une grande roue à l'époque de Eminem Show, il y avait une grande roue sur scène. Enfin, il y avait beaucoup d'artifice. Là, au Stade de France, en l'occurrence, il y a 2-3 ans, un petit écran, je crois, je sais même pas s'il y avait des écrans, mais en tout cas, deux, trois petites lumières, et lui qui kick pendant une heure, quoi. Il y a quand même une présence sur scène qui est incroyable, quoi.
Et contrairement à Jay-Z, il a pas besoin de sa meuf pour remplir le Stade de France. Il faut lui reconnaître ça.
il rime, il est le pro des punchlines. Bon, alors c'est l'heure du blind test made in Blockbuster. Alors, un blind test consacré cette fois-ci au daron du rap français. Voilà, parce qu'on parle évidemment d'Eminem, star américaine, mais nous aussi en France, on se débrouille dans le game. Donc je vais vous faire écouter quelques morceaux, et je pense que vous allez reconnaître très très vite, mais c'est surtout un prétexte pour qu'on écoute, bah voilà, qu'on retourne aux sources du hip-hop français. Et il y a des surprises.
Vous savez que ça va finir
cool, mal. Ouais, NTM.
Évidemment. Avec la chanson Qu'est-ce qu'on attend
pour foutre le feu.
Alors il y avait une petite anecdote sur cette chanson.
Mais je crois que j'étais encore trop jeune moi.
Enfin, si vous n'êtes pas si jeune que ça, il faut arrêter. Hein.
Non, bah, je sais plus, je me rappelle du clip, je me rappelle que ça foutait le feu en concert, même si j'ai pas eu la chance d'y assister. Et je me rappelle que c'était. Non, j'allais dire une connerie, mais je crois que Cool Shen s'était enfin rasé la tête. Parce qu'avant, il avait une coupe de cheveux un peu plus agressive.
Oui, mais voilà. C'était les années 90, hein, donc forcément, on avait tendance à avoir les cheveux.
Ouais, on a tous testé des trucs, ouais.
Oui, et c'était vraiment des tests, c'est vraiment le
voilà, mot. On a vraiment des. C'est des work in progress.
la seule anecdote que j'ai, c'est que les Inconnus se sont inspirés de ce premier album d'NTM pour faire leur chanson Les Keufs dans les RER, je sais plus comment ça s'appelle. Ils sont inspirés d'NTM.
D'Authentique, le premier album.
Oui. Son suivant.
Quand le sucre est tombé, je gueule le café renversé. Je sens que la journée était mal commencée.
Non, c'était quoi ça? Début de soirée.
Eh oui. Eh oui, l'âge d'or du rap français.
Eh oui.
Voilà, attention, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup.
J'entends jusqu'au bout de la nuit tes flashs. En musique funky, il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque. Il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tiens le choc.
Et voilà, et ça a ouvert les portes.
Mais non, alors pour le coup, historiquement, ça c'est une discussion que j'ai eue avec quelqu'un que vous connaissez certainement qui s'appelle Olivier Cachin.
Oui.
Qu'on salue, journaliste émérite qui suit le rap depuis aussi pareil de nombreuses années.
Et qui a beaucoup de cravates texanes.
Et qui a beaucoup de cravates. Mais avec Olivier, il est d'accord, et moi je suis assez d'accord là-dessus pour dire que le premier titre de rap français, c'est pas Début de soirée pour le coup, mais c'est Chagrin d'amour. Est-ce que vous vous souvenez de ce morceau Chacun fait ce qui lui plaît?
Ah oui. Mais en plus.
Ah oui.
Exactement.
Fait ce qui lui plaît parce que t'as une partie
en. Alors, attendez, exact. Parce qu'il y a la réalisatrice qui est en train de me casser la tête là dans mon casque. Elle me dit: tu vois, je t'avais dit qu'il fallait le mettre parce que je savais que c'était ça. Voilà. Me l'avait dit. Et donc, effectivement, Chacun fait du. Elle l'avait dit. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui était d'accord avec vous, Fred Musa.
Ah ouais, non, mais c'est une discussion et on peut revenir là-dessus. En tout cas, sur le rap français, c'est vrai que c'est une trace rapologique après les puristes.
Trace de bien. Évidemment. Alors voilà, et dernier morceau.
Plus sombre, éclairé au néon.
Canaton,
évidemment. Là, on a fait le tour. Et ben, on a gagné une chanson et une chanson que j'aime beaucoup. Tout de suite, on écoute le rappeur américain Childish Gambino, Donald Glover. Exactement, avec This Is America. On l'écoute tout de suite.
We just wanna party, I'm just for you. We just wanna party, I'm just for you. I don't wanna die, I'm just for you. We gotta dance, dance and shake the breeze. We just wanna party, I'm just for you. We just wanna party, I'm just for you.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in
my area.
I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, I'ma go into this. Yeah, this is Gorilla. Yeah, I'ma go get the bag. Yeah, or I'ma get the pad. Yeah, I'm so cold like,
yeah.
I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up.
Look what I'm whipping up.
Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah,
I'm gonna get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak.
Black.
Ooh, know that.
Yeah.
Ooh, get it.
Get it. Get it.
Work it. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband,
contraband.
I got the plug on with a hawker.
Whoa.
They gonna find you like Baka.
Blah.
Ooh, America. I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me.
C'était This Is America, un morceau de l'américain Childish Gambino, alias Donald Glover, que vous pouvez retrouver également au cinéma, interprétant le jeune Lando dans Solo, Star Wars Story. Alors, j'ai une dernière question pour vous, parce qu'on a parlé d'Eminem, et on a dit que ses derniers albums étaient légèrement, peut-être plus réussis techniquement, mais moins viscéral. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a un nouvel Eminem dans le monde du rap américain? Fred Musa.
Non, bonne question. Mais on cherche toujours surtout à comparer. Je pense que là, c'est surtout maintenant une autre époque. On le voit. Alors, il y a un artiste qui était très prometteur, qui vient de se faire tuer d'ailleurs aux États-Unis, qui s'appelle Triple X Temptation. Mais je peux pas dire. En tout cas, je peux pas le comparer à Eminem. Mais c'est vrai que quand je cherche, alors il y a aussi un groupe qui est intéressant aux États-Unis qui s'appelle Migos. Alors peut-être un peu moins dans les paroles, mais en tout cas la façon, pour le coup, dans le flow et la façon dont ils vont travailler les morceaux, où ils vont rajouter ce qu'on appelle des petits adlibs, c'est voilà.
Je sais pas si j'ai bien réussi,
mais voilà, pour un peu imager un petit peu cette histoire, mais qui ont en tout cas une couleur musicale, oui, mais d'Eminem à proprement parler, j'en vois pas à l'heure d'aujourd'hui.
Moi, pareil, parce que le truc, c'est que faudrait un artiste qui regroupe donc des grosses qualités techniques plus ce qu'on considérait maintenant être du rap à l'ancienne, en fait. Parce qu'au final, la version du rap que livrait Eminem, c'est plus du tout un truc qui est à la mode maintenant, en fait. Et à la limite, le seul qui continue ce genre de truc et qui fait des albums qui sont des vrais albums avec un concept à chaque fois, c'est plus Kendrick Lamar. Mais Kendrick Lamar, il a pas le côté complètement fou et parfois gratuit et parfois provoque qu'Eminem avait. Donc non, pour moi, il y a pas vraiment de...
Et Jean-Baptiste, tout ça très rapidement.
Moi, j'en trouve un qui pourrait un peu s'apparenter à Eminem, c'est Tyler, the Creator, dans le côté un peu fou, un peu drôle, un peu comique. Donc voilà.
D'accord.
Très rapide.
Alors, c'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires, des messages au 01 56 40 30 20. 01 56 40 30 20. Et on se retrouve lundi pour parler d'un film de science-fiction culte, Matrix, et ses réalisatrices, les sœurs Wachowski. Bonjour Dorothée Barba.
Bonjour à tous. Le débat de midi, c'est juste après le journal. Et j'ose à peine vous dire le sujet tellement je m'attaque à un thème dont vous êtes le spécialiste, Frédéric Sigrist. Les super-pouvoirs. Quel est le meilleur des super-pouvoirs? Alors, j'ai fait un petit sondage à France Inter. Tout le monde veut pouvoir se téléporter.
Mais vraiment.
Je trouve que ça manque un peu d'ambition.
Mais
quand
ça
même.
Manque d'ambition, ouais. Surtout qu'en plus, c'est super dangereux. On peut se téléporter dans un mur et tout ça. Ces gens-là n'ont pas vu la mouche. Ouais. Ils n'ont pas compris.
Si je me téléporte, par exemple, à New York, là, tout de suite, que devient le moi qui est en studio?
Et est-ce qu'il est détruit et c'est une copie de vous-même Donc, ça ne marche pas. Le meilleur pouvoir, c'est la télépathie, Dorothée. Bon.
La télékinésie, c'est pas mal non plus.
Les deux vont de pair.
Les réactions des auditeurs sont attendues sur le site de France Inter à la page Le Débat de Midi.
Parfait. Mais on va écouter ça avec beaucoup d'attention. Mais et je vous rejoins tout de suite.
Vous allez bien, France Inter, parce qu'entre Eminem et les trucs super pouvoirs, il y a un truc qui se passe là.
C'est l'été.
C'est le pouvoir de la pop culture qui s'est emparé de nous.
C'est l'été. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour avoir participé à cette émission. C'était vraiment sympathique. Et donc, on se retrouve lundi.
Je crois que c'est vraiment le fait d'avoir ma petite fille qui m'a poussé à me bouger le cul pour faire quelque chose de ma vie. J'ai essayé 10 fois plus fort de percer pour essayer de devenir quelqu'un. Moi, je n'ai pas fait d'études supérieures, je n'ai aucun bagage, et pourtant, j'y suis arrivé.